Radio Okapi.
Nous vous parlons droit de l'homme juste quand nous abordons le corps du journal de ce soir sur Radio Okapi avec ce nouveau rapport du BCNUDH sur l'ensemble du territoire congolais. Environ 7000 atteintes aux droits humains sont répertoriées durant l'année 2021, chiffre en baisse contrairement à 2020, conclut ce bureau. Poursuivi pour détournement des deniers publics, tentative de corruption, infraction de fuite devant l'ennemi et pour coups et arrestations arbitraires, 8 officiers de l'armée congolaise comparaissent distinctement devant la cour militaire du Nord Kivu, comme vous le suivrez dans cette édition. Jean-Syriac Graouan est officier de protection au HCR Baraka. Il intervient en fin de ce journal pour nous parler du rapatriement des plus de 200 des réfugiés burundais dans leur pays. Restez donc branchés sur la fréquence de Radio Okapi pour en apprendre davantage. Fidèles auditeurs, bienvenue et bon après-midi à toutes et à tous. Près de 7000 violations des droits de l'homme ont été documentées sur toute l'étendue du territoire congolais en 2021. C'est ce qu'indique le rapport annuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Rapport publié à Kinshasa jeudi 27 janvier. Comparativement à l'année précédente, 2020 donc, le BCNUDH note une diminution de près de 12% de ses violations. D'autres informations sur ce rapport avec Honoré Missenga Kalala.
Le bureau conjoint a documenté précisément 6989 violations commises de janvier à décembre 2021 pour une moyenne mensuelle de 582 violations. Par rapport à la période précédente, l'organisme onusien des droits de l'homme chiffre à 12% la tendance à la baisse, contrairement à 2020 qui avait plutôt enregistré une hausse des violations des droits de l'homme évaluée à 21% par rapport à 2019. Les types de violations les plus rapportées par le bureau conjoint au cours de l'année dernière sont, entre autres, les atteintes au droit à la liberté et la sécurité de la personne. 1886 cas ont été rapportés pour ce type de violation et 5933 victimes répertoriées, dont 725 femmes et 463 enfants. Les violations du droit à l'intégrité physique et les violations du droit à la propriété entrent également dans la même catégorie. Autre donnée chiffrée à retenir de ce rapport, 60% des violations commises en 2021 l'ont été par les groupes armés dans les provinces en conflit armé où au moins 2024 civils, dont 439 femmes, ont été victimes d'exécutions sommaires.
Au Nord Kivu, au total, 8 officiers des FRDC de la 34e région militaire comparaissent depuis hier mercredi devant la cour militaire pour des faits graves, selon le ministère public. Les uns sont inculpés par le parquet militaire pour des faits de détournement des deniers publics et tentative de corruption à la délégation de l'inspection des FRDC. Deux d'entre eux sont poursuivis, l'un pour infraction de fuite devant l'ennemi en territoire des Rutshuru et l'autre pour coups et arrestations arbitraires commises à Beni. Le point avec Gabriel Wamenya.
Le lieutenant-colonel Gabriel Kasongo Kapinga Ngoi Atenda et le major Gelengwa Yondu, tous chargés de la paye et de la rémunération des militaires à l'état-major de la 34e région militaire, ces officiers auraient produit par corporation des états de paye rassemblant tous les militaires déserteurs et les auraient incorporés dans la liste des militaires décédés. Cette transaction, qui a englouti plusieurs milliers de francs congolais, s'est effectuée en deux épisodes selon l'acte d'accusation. Les capitaines Bienfait Alimasi et Lassi Kaba sont poursuivis par la justice dans une autre affaire de tentative de corruption à la délégation de l'inspection générale des FRDC. Quant au lieutenant-colonel Kalonji Mutombo, dit 34e régiment, il est accusé des coups et blessures volontaires à Beni en novembre dernier. Le dernier officier poursuivi par la justice est le major Kamanzi Bwero. Ce dernier aurait capitulé devant les rebelles présumés du M23 en novembre et décembre dernier. Sa fuite en tant que commandant du bataillon aurait causé une lourde perte en termes humains et matériels dans les rangs de l'armée loyaliste à Runyonyi, en territoire de Rutshuru. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Nord Kivu, situation relativement calme ce jeudi à Rugari et Nyesisi. C'est dans les groupements Rugari et Kisigari en territoire de Rutshuru. Les deux villages étaient depuis lundi dernier le théâtre d'attaques et d'affrontements entre l'armée et les rebelles présumés du M23, causant ainsi la fuite des centaines de ménages. Le gouverneur de province s'est rendu hier sur le terrain à Rugari pour s'enquérir de la situation.
Ceci avant de superviser personnellement les opérations militaires où des tirs à l'armée lourde ont été lancés à partir de Kibumba en direction de Niesisi où se serait retranché l'ennemi. Denise Lukeso.
À Niesisi, groupement de Kisigari, les chefs de groupement affirment que la situation est relativement calme ce jeudi. Pas de tirs entendus depuis le matin. Selon lui, ce qui a permis aux jeunes du milieu d'extraire tôt le matin les corps de l'officier tombé sur les champs d'honneur depuis lundi dernier et qu'ils ont acheminé au camp des Rumangabo pour des dispositions militaires. Les Mwami Justin Komayombi salue ce geste patriotique et courageux de sa population. C'est là, après une tentative hier sans succès. Il déplore cependant le fait que quelques jeunes aient essuyé des tirs de l'ennemi quand ils tentaient de récupérer ses corps. Il souligne que plusieurs villages de son entité restent fantômes. À Rougori-Centre, le chef de groupement voisin témoigne également d'un calme précaire et situation imprévisible. Le trafic routier est normal, les écoles ont réouvert. Le gouverneur des provinces est arrivé hier à Rougari où il s'est entretenu avec le commandant secteur et d'autres officiers militaires. Lundi dernier, les rebelles présumés M23 ont attaqué le village Niesisi, attaque qui aurait fait d'importantes pertes et des blessés du côté de l'armée, mais également a jeté des centaines de ménages sur le chemin d'exil. Depuis Kiwanja, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Au Congo central, une résurgence de la criminalité s'observe dans la cité côtière de Mwanda. D'après les habitants de la cité de Mwanda, en l'espace de près de 3 semaines, des hommes appelés communément Kuluna ont perpétré plusieurs cas de cambriolage et d'extorsion dans plusieurs localités. Dans une interview à Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Mwanda indique que des réunions se multiplient entre l'autorité locale, services de sécurité et des forces vives pour définir des stratégies pour mettre fin à cette insécurité. Nana Plurich Mambou pour le reportage.
D'après les témoignages de certains habitants de la cité côtière de Mwanda, c'est depuis près de 3 semaines que leurs quartiers sont secoués par une insécurité caractérisée par l'incursion des bandits munis d'armes blanches dans les domiciles des paisibles citoyens. Plusieurs personnes ont été blessées, de biens des valeurs et argent emportés, affirment des témoins. Hier mercredi aux environs de 19h, ces hommes munis de machettes ont opéré dans une cabine téléphonique située au quartier Océan en allant vers la base militaire de Kitona. Ils ont ravi sur leur passage 3 motos, des téléphones, de l'argent et d'autres biens du responsable de la cabine. Les habitants disent en avoir marre. Ils appellent les autorités locales à prendre des dispositions qui s'imposent quant à ces.
Nous sommes désolés pour ce qui se passe dans la cité côtière de Mwanda. Les Kuluna posent des actes que la population n'arrive pas à comprendre. Ils ont cassé la cabine et ils ont tout volé, même le moto. Donc nous sommes fatigués de l'insécurité qui règne à mettre dans cette entité. C'est pourquoi nous demandons à l'AT de faire tout pour arrêter cette hémorragie.
De son côté, l'autorité locale affirme que des réunions se multiplient avec les services de sécurité et des forces vives pour définir des stratégies pouvant mettre fin à cette insécurité. Signalons que ses habitants attendent voir des mesures concrètes issues de ces réunions pour que la sécurité s'améliore. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
L'actualité nous amène à Butembo où le prix du litre de carburant est monté depuis ce mercredi à 3500 francs à la pompe contre 2500 francs congolais il y a quelques jours. Il y a peu, il se vendait même jusqu'à 4000 francs congolais. Cette hausse est la conséquence de la rupture du stock de carburant auprès des pétroliers. Le président de la FEC Butembo Lubero, Polycarpe Ndivito, explique cette situation par la hausse du prix du baril à la raffinerie de Kenya où la production a sensiblement baissé. Cette flambée de prix affecte le secteur des transports en commun dans la ville de Butembo, comme nous le dit Florida Kahambu.
Pour les mototaxis, principal moyen de transport en commun à Butembo, les prix de la course a doublé selon les destinations, ce qui inquiète les clients, comme le témoigne cette ménagère.
Là où j'ai payé 500 francs, on me demande 1000 francs. Et là où j'ai payé 1000 francs, on demande 2000 francs. C'est devenu difficile parce que avec les 1000 francs, je faisais aller-retour. Et vu la vie que nous vivons aujourd'hui, je suis obligé de marcher à pied. À cause de cela, j'ai réduit mes courses pour économiser un peu d'argent. Parce que nous qui avons des enfants qui vont à l'école chaque jour, nous ne devons pas manquer de l'argent pour leur payer les taxis de chaque jour.
Cependant, dans les agences de voyage, les prix du billet de Butembo vers d'autres agglomérations n'a pas changé. C'est ce que dit Mboussa Winning, vice-président de la SECO Grand Nord Kivu. Notons que le prix du carburant a pris de l'ascenseur quelques jours seulement après le communiqué du ministère de l'économie fixant les prix du litre d'essence à 2450 francs congolais dans la zone Est. Polycarpe Ndivito, président de la FEC Boutembo Lubero, qui dit que ce prix était déjà d'application, explique la situation actuelle par la diminution de la production de pétrole à la raffinerie du Kenya où s'approvisionnent les pétroliers congolais. Boutembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Parlons à présent des voies de communication. Sud Kivu, la route nationale RN5 est menacée de coupures à plusieurs endroits dans les escarpements d'Engomo. C'est entre Bukavu et Kamanyola. Cette nationale d'importance économique capitale relie le Sud Kivu au Katanga en passant par le Tanganyika. L'office des routes est à pied d'œuvre en ce moment pour tenter de maintenir le trafic sur ce tronçon. Emmanuel Elamejiwa Kabedi nous en parle.
Ce sont plus les érosions au bas des montagnes qui menacent la RN5 dans les escarpements d'Engomo entre Bukavu et Kamanyola. La principale menace se situe entre PK40 et PK45, communément appelée Chemusimbi, dans le territoire de Walungu. L'office des routes, avec un financement provisoire du FONER, s'attelle à maintenir le trafic. Monsieur Anissé Kakese, directeur provincial.
Avant Musimbi, nous devons construire un dalo. Toutes les eaux qui viennent de la montagne, que ça prenne le dalo pour passer. Nous allons construire un dalo PK, je pense, 41 ou bien 42. Les usagers, ils doivent être patients. Nous allons couper la route. Nous allons mettre un pont provisoire pour permettre aux gens de passer, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. Nous allons finir le travail. La durée, bon, donne 3 mois, hein, parce qu'il faut que le béton durcisse.
Après 3 jours d'intenses travaux, le trafic est réouvert aux seuls engins de petit tonnage sur le pont provisoire au moment où la construction du dalo se poursuit. La route nationale RN5 relie Bukavu à Lubumbashi sur une distance de 1356 km. Elle passe par Kamanyola et Uvira à travers les escarpements d'Engomo. La RN5 traverse Fizi avant d'atteindre Kalemi, Pueto, Kasomeno et chuter sur Lubumbashi. Emmanuel Elamijwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Du côté de la province de Bazouélé, le pont Roubi, jeté sur la rivière portant le même nom, à l'entrée de la ville de Bouta sur la nationale numéro 4, est sous la menace d'effondrement pour cause le vol d'écrous par des inciviques depuis une semaine. Ce qui risque de provoquer l'écroulement de cet ouvrage dans les prochains jours. Heureusement, grâce à la dénonciation d'un homme averti, la police a mis la main sur un jeune homme qui se livrerait à cette sale besogne, comme nous le dit Jacques Moukonkolé.
L'opération de retrait frauduleux de ces écrous a débuté depuis une semaine, déclare la gouverneure du Bazouélé. Ruth Badouli précise qu'un jeune homme de 22 ans a eu l'audace de desserrer ses écrous avant de venir les récupérer le lendemain durant une semaine. Remarqué par un homme curieux de le voir régulièrement sur ce pont, muni d'une clé, ce dernier a averti la police. Les forces de l'ordre l'ont surpris en flagrant délit lundi dernier et l'ont mis aux arrêts. Dans sa jubessière, 67 écrous déjà retirés des traverses du pont. Toujours selon l'autorité provinciale, le directeur de l'office des routes a été appelé pour les constats du pont et de mesurer les risques éventuels. Si ce pont s'effondrait, avertit Ruth Badouli, le Bazouélé serait coupé de la ville de Kisangani, sa principale voie d'approvisionnement en produits manufacturés. Afin d'éviter ce désagrément, Ruth Badouli interpelle ses administrés.
Prennent vraiment conscience de surveiller le patrimoine pour le bien-être de notre province. La population est là pour la surveillance et puis dénoncer le plus vite possible aux services spécialisés.
Afin de dissuader certains inciviques qui seraient tentés de se livrer à pareil comportement, la gouverneure promet d'affecter une équipe de policiers à l'entrée de ces ponts pour la garde. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Autre nouvelle d'actualité dans la province de l'Ituri, l'or produit à Ituri ne profite pas à la population à cause des désordres qui règnent dans ce secteur. C'est le constat fait par une équipe d'inspecteurs du ministère des Mines qui a achevé ce mercredi une mission d'inspection de plus d'un mois dans la province. Le chef de cette délégation, François Mouemedi, dit que la majorité des opérateurs miniers exercent leurs activités en toute illégalité. Les services de l'État ne détiennent pas de statistiques de production car l'accès au site leur est interdit par ces exploitants parmi lesquels figurent des expatriés chinois, ce qui constitue un manque à gagner énorme pour le trésor public. François Mouemedi dit qu'il est temps que le gouvernement reprenne le contrôle sur ces secteurs afin que les populations tirent profit de leurs richesses. François Mouemedi le dit au micro de Jean-Claude Lokidile.
Comme vous le savez, dans les sites miniers, que ce soit au niveau des sociétés qu'au niveau des secteurs artisanaux, il y a des militaires, il y a des policiers. Au lieu que ces derniers puissent servir la nation, mais ces derniers, bien entendu, ce n'est pas une accusation, c'est une réalité, sont en train de protéger les intérêts des privés, des gens qui ont des coopératives et tout comme c'est des sociétés. C'est ça les regrets. Un manque à gagner total. Si la province bénéficie ipso facto, il faut que les trésors publics bénéficient. Nous avons constaté que le trésor public est minimisé. Si la traçabilité sera respectée et que les agents de l'État auront la même mise, c'est-à-dire l'accès dans les sites, je crois que les recettes de l'État vont galoper, même fois 10, tout comme même ici au niveau des provinces.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, les militaires au pouvoir commencent à organiser la transition. Ils ont rencontré les ministres du gouvernement dissous. Ils sont tous présents, les ministres du gouvernement dissous au Burkina Faso, pour leur rencontre avec les militaires au pouvoir. Aucun d'entre eux ne manque à l'appel. Il leur avait été demandé de ne pas quitter le pays sans autorisation. Parmi eux se trouve notamment le premier ministre Lassina Zerbo. Quelques jours après le coup d'État qui a renversé le président Roch Kabore, les militaires au pouvoir commencent à organiser la transition. Des camions avec des bannières et des haut-parleurs annonçant que le vaccin Covid-19 est gratuit et sans danger ont visité différents marchés de la capitale Abuja mercredi, suivis par des gens de santé dans des camionnettes prêtes à vacciner les gens. Alors que le Nigeria fait face à une nouvelle vague du cas de Covid-19, principalement en raison de la propagation de la variante Omicron, les autorités de la capitale ont lancé une nouvelle campagne avec des unités mobiles visitant différents endroits afin de vacciner davantage des personnes dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
L'invité.
Au Sud Kivu, l'officier de protection au ACR Baraka, Jean Syriac Graouan, a supervisé ce mercredi l'opération de rapatriement du premier convoi de près de 270 réfugiés burundais vers leur pays d'origine, le Burundi voisin. L'opération s'est déroulée à la frontière congolo-burundaise de Kavimvira en présence des autorités burundaises de la Direction générale de rapatriement, réinstallation et réinsertion. Jean Syriac Graouan est notre invité, il répond aux questions de Fiston Goma.
Jean Syriac, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez un bilan à présenter par rapport à 2021 aux opérations de rapatriement?
En 2021, nous avons réalisé un très bon bilan. Nous avons réalisé 34 convois d'un total de 9669 individus réfugiés que nous avons rapatriés du côté du Burundi. Nous sommes là ce jour dans le cadre de l'organisation du rapatriement volontaire, activité que nous avons commencée depuis le 23 septembre 2020 et qui se poursuit. Alors, ce jour, c'est le premier convoi de l'année 2022, donc c'est ce qui explique un peu notre présence à la frontière burundo-congolaise. Nous avions prévu de rapatrier 320 personnes et finalement, ceux qui ont pu embarquer, qui ont accepté, qui ont confirmé leur intention de retour, ils sont au total 78 ménages de 272 personnes.
Quelles sont les dispositions qui ont été prises quoi, pour leur évacuation depuis le camp des réfugiés jusqu'ici à la frontière, au regard de toutes ces difficultés sur la route?
Au regard des standards du HCR, dans le cadre du rapatriement volontaire, il est toujours dit que les rapatriés doivent être, ou du moins les réfugiés qui veulent être rapatriés, doivent être rapatriés dans la sécurité et dans la dignité. Ce sont ces conditions-là que nous avons respectées. Nous avons veillé à ce que la sécurité du convoi soit assurée par la mobilisation d'éléments de la police nationale congolaise. Et nous avons mis des véhicules avec un certain confort pour le transport à la fois des personnes qui sont normales et entre griffes, et aussi les personnes à besoins spécifiques qui ont bénéficié des moyens de transport spécifiques.
Au regard de toutes les rumeurs qui ont pesé sur vos opérations de rapatriement, hier et aujourd'hui même dans Uvira, Fizi, quel mot est-ce que vous avez à placer par rapport à ces rapatriements, cette catégorie des personnes rapatriées?
Effectivement, nous avons entendu un certain nombre de rumeurs, des vidéos qui ont été balancées sur le net, que nous avons également écoutées. Ces vidéos parlent d'une certaine communauté que le HR transporterait et qui susciterait en tout cas des réactions de la part de la communauté locale. Mais je tiens à préciser ici que le rapatriement qui est fait ce jour et que nous avons commencé, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu depuis 2020, c'est un rapatriement qui est officiel, ce n'est pas une activité cachée. Le rapatriement volontaire fait partie des solutions durables que le HR applique. Alors donc, ce rapatriement volontaire que nous avons initié et que nous sommes en train de continuer. Donc c'est une activité officielle dans laquelle le gouvernement congolais est impliqué et c'est d'ailleurs le gouvernement congolais que le HR et ses partenaires soutiennent. Donc c'est des personnes qui ont été reconnues réfugiées depuis un certain temps et qui ont exprimé leur désir de retourner dans leur pays. Ce sont ces personnes-là que nous sommes en train de rapatrier. Ce n'est pas une activité clandestine, c'est une activité officielle. Le gouvernement congolais est impliqué dans cette activité et le HR et ses partenaires ne font que appuyer le gouvernement dans le cadre de ce retour. C'est ce que je peux dire à ce stade.
Comment comptez-vous vous y prendre pour cette année 2022?
C'est une dynamique qui est en place. Nous espérons continuer la dynamique, sinon l'améliorer. Et cette année, nous prévoyons de rapatrier 15 000 réfugiés à peu près. La route, cette année, quand on prend un peu la portion de la route entre Baraka et Uvira, ça a été nettement amélioré. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement parfaite, mais on va essayer de mobiliser des moyens en conséquence pour pouvoir faciliter ce rapatriement-là. Sinon, si la route n'est pas faisable, quelquefois on va utiliser le bateau.
Quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez pu mettre les réfugiés par rapport à la Covid-19?
Il y a des mesures qui sont prises. Quand vous regardez dans les véhicules en ce moment, tous les réfugiés portent des masques. Donc d'abord, il y a une distribution de masques qui se fait au moment de monter dans les véhicules. Il y a le système de lavage de mains qui est également en place. Et nous essayons de minimiser un peu le nombre de personnes par véhicule pour pouvoir respecter la distanciation sociale. On privilégie l'embarquement en tenant compte des familles. Le test se fait à l'arrivée au Burundi. Le test Covid se fait à l'arrivée.
Merci beaucoup Jean Syriac.
Merci beaucoup monsieur.
Fidèles auditeurs, voilà qui met fin à cette édition vespérale de Journal Parlé sur Radio Okapi. Élisée Chikota, Alain Irung, Noëlla Luzito ont concouru à la préparation de ce journal et Billy Ivan Lutumba était à la présentation. Merci de nous avoir suivis.